J'aimerais commencer, bien sûr, en priant et ensuite je vous partagerai le thème de ce soir. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Viens envahir ce lieu. Nous avons tant, tant, tant besoin de toi. Seigneur, mets tes paroles dans ma bouche, tes paroles qui sont esprit et vie, afin que ton peuple sorte de ce lieu fortifié, renouvelé, libéré, empuissancé. Par toi, Saint-Esprit. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur, que toute montagne sera aplanie. Juste dépendre de toi. Remplis-moi et remplis-nous. Dans le nom de Jésus, viens faire ton œuvre. Amen. Alors, j'ai eu écho avec Rodrigue et notamment Jérémy. Je me suis dit, ben, écoute, j'aimerais. Moi, couler dans votre flot, qu'est-ce que vous avez partagé la fois dernière sur le thème qu'est la sexualité? Qu'est-ce que vous avez abordé déjà ben, pour apprendre et écouter ce qui a été partagé? Et bien sûr, pour poursuivre et que ce soit quelque chose de cohérent, l'entrée, le repas, le dessert et tout ça. En priant, j'ai entendu ce que Rodrigue, en tout cas, a un peu partagé. Brièvement, me l'a dit, mais Jérémy me l'a partagé aussi. Et vous avez vu une approche théologique, doctrinale, un fondement en ce qui concerne la sexualité. Et c'est juste stop. Vous avez vu que la sexualité, c'est un signe ou une expression de l'alliance. Et que le sexe n'est pas juste naturel, mais c'est aussi spirituel. Et vous avez vu que ce n'est pas le diable, bien sûr, qui a créé le sexe, c'est Dieu. Et je pense que ce que vous avez commencé à voir dans cette série est réellement libérateur. Et je me réjouis, et je disais à Rodrigue aujourd'hui que je rigolais avec l'image de cette série sur Facebook avec le petit canard. Et je me dis, ah, ils ont osé mettre un petit canard. Je dis, le voilà, le petit canard. Regardez-moi ça. Et ça, c'est pas un petit canard pour les enfants. Et je dis, ils ont osé, je me réjouissais et je me dis, c'est tellement bon de voir l'Église oser parler de ce sujet. Et j'aimerais vous demander juste de pouvoir juste acclamer, encourager tout le leadership de Clé, s'il vous plaît, parce qu'il faut. Je connais beaucoup d'églises qui n'osent pas parce que la religion peut pointer du doigt et matraquer. Et vous avez osé ici dire non, 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 c'est un sujet primordial, vital. Il faut qu'on en parle. Ça parle de la vie de tous les jours. Parce que l'église est trop longtemps restée silencieuse sur ce sujet. Et rester silencieux n'aide pas à enlever la confusion. Rester silencieux sur ce sujet à amener le monde à être une voix sur ce sujet, au lieu que ce soit l'Église. Parce que l'Église a fermé sa bouche et le monde a ouvert la sienne pour parler de ce sujet et l'a déformé, l'a corrompu, alors que ce n'est pas le diable qui a créé le sexe, mais c'est Dieu. Et c'est important donc d'en parler. C'est important de comprendre que le silence de l'Église a amené même le peuple de Dieu à croire aux mensonges que le monde partage, parce que l'Église n'en parle pas. Et le silence que l'Église a utilisé parfois pour soi-disant protéger a emmené à ce que la sexualité soit vue de manière corrompue ou mal vue ou soit tordue dans notre perception. Parce qu'il suffit d'aller dans les rues, de mettre la radio, d'ouvrir la télé, n'importe quelle chaîne, en général, la sexualité, le sexe est partout. Je veux dire, il y a un an ou deux, j'étais avec mes enfants au cinéma à La Réunion, et vous savez, avant que le film commence, il passe des bandes-annonces, et c'était un dessin animé. Et là, ils ont mis une pub vraiment à connotation sexuelle forte. Je suis parti voir les responsables. Je dis, mais est-ce que vous savez qu'il y a des enfants là? Je dis, mais c'est un dessin animé, pourquoi vous mettez ça? Et donc, si nous, l'Église, on reste silencieux sur ce sujet, on va pas libérer le peuple et lui partager la vérité. Et on va laisser le monde enseigner de manière séductive, de séductrice, ce qui appartient à Dieu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. La meilleure façon d'éradiquer un mensonge, c'est de dire la vérité. Et comme je sais qu'il y a eu déjà un fondement samedi dernier, dimanche dernier, qui a été posé sur vraiment des bases doctrinales, avec la Genèse, etc., moi, j'aimerais ce soir être peut-être un peu plus pragmatique et moins théorique et vous parler des mythes de la sexualité, c'est-à-dire des mensonges. Le thème, c'est démasquer les mythes sur la sexualité. On va voir ensemble plusieurs points et on va voir que parfois, on a une façon de penser qui est mauvaise sur ce sujet. Il y a des choses que l'ennemi a voulu nous faire croire qui n'est pas bonne. Donc certains mythes vont concerner des personnes, d'autres vont concerner d'autres. Je ne vise personne, mais Dieu vise tout le monde. Parce qu'il veut nous libérer avec la vérité. Amen. Donc, je n'ai pas compté les mythes, je n'ai pas mis numéro 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6, mais j'en ai plusieurs. Et j'aimerais juste que, comme le thème est un thème spécifique et particulier, donc vous partagez des principes sur ce thème de manière réellement libre et spécifique. Et on va voir quelques mythes. Le premier, par exemple, qu'il faut que l'Église, quand je dis le premier, comprenez, ce n'est pas dans l'ordre de priorité. Après, je vais oublier le nombre de points, parce qu'il y en a plusieurs. Mais le premier que j'aimerais vous partager, c'est que Dieu n'est pas embarrassé de parler de sexe. Dieu n'est pas embarrassé de parler de sexe. L'Église, si. Mais Dieu, non. Dieu n'est pas embarrassé de parler de la sexualité. Et vous allez me dire, oui, mais où on voit ça dans la parole de Dieu? Allez lire le livre Cantique des Cantiques. Il y a un livre entier sur la relation entre deux personnes avec une connotation réellement qui porte avec le langage de l'époque où tu te dis, wow. D'accord, Salomon, dans ce cantique-là, c'est un peu bizarre. Il dit, tes dents blanches sont comme, une colombe. Ton cou est comme une tourde. C'est bon, écoute, c'est sa poésie à lui, pour l'époque. Mais il y a un livre entier qui parle de romance, qui parle de se séduire l'un et l'autre dans la relation, dans le livre des Cantiques, des Cantiques. C'est pas juste un verset, c'est un livre. Et je vais vous lire, par exemple, les 4 premiers versets dans la version Semeur du Cantique des Cantiques. Et vous allez voir. Il est écrit « Le plus beau des chants composés par Salomon. » Le plus beau déjà. Ça commence comme ça. « Ah, que ta bouche me couvre de baisers. » Ça commence bien déjà. « Car ton amour est plus exaltant que le vin. » « Combien suaves sont tes parfums. » Ton nom est comparable à une huile odorante qui se répand. Voilà pourquoi les jeunes filles sont éprises de toi. Je veux dire, là, juste les 3 premiers versets, et vous lisez tous les Cantiques de Cantiques, c'est juste ça. C'est un jeu de séduction entre Salomon et sa bien-aimée. Et un jeu de séduction orale où ils se séduisent avec des paroles suaves, comme on a vu. Et on croit que Dieu est embarrassé de parler de sexe. Salomon, non. Et c'est l'homme le plus sage qui existait après Jésus. Et je me dis, si l'homme le plus sage, lui, il a osé, comment se fait-il que l'Église est silencieuse? Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Donc, premier mythe, Dieu n'est pas embarrassé de parler de sexe. Un autre mythe, c'est le but du sexe, ce n'est pas le plaisir, mais que la procréation. Il y en a qui pensent ça. Ou les relations sexuelles, c'est que pour faire des bébés. Dans quel film ? C'est un mythe, c'est faux. Et il y a eu dans la pensée religieuse cela, que le but du sexe, ce n'est pas le plaisir. Si ! Cantique des Cantiques, 1-4, nous dit ceci. Entraîne-moi derrière toi. Courons ensemble. Le roi m'a fait entrer dans ses appartements. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à ton sujet. Célébrons ton amour, plus exaltant que le bon vin. Et c'est bien avec raison qu'on est épris de toi. Je veux dire, comme tu fais-moi rentrer dans tes appartements, là. C'est pas pour jouer au Lego. Je dis, quand on lit Cantique 1-4, là, c'est pas on va jouer au Lego dans des appartements. Et on va s'amuser, quoi. C'est pas ça. Là, c'est dit, wow, je vais être épris de ton amour, quoi. C'est écrit noir sur blanc. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse à ton sujet. Le roi ne veut pas dire rentre dans mes appartements et puis on va discuter. C'est pas ça. Ça parle ici, il dit soyons dans l'allégresse lorsqu'on est ensemble. Ça parle de plaisir. Un autre passage dans Proverbe 16, 4 est très simple. Nous dit, l'Éternel a fait tout pour un but. Si il avait fait le sexe juste pour procréer, il n'aurait pas mis autant de plaisir. Tout simplement. Il y a des parties de nos organes en tant qu'hommes et femmes sexuels qui créent du plaisir, chimiquement parlant, qui libèrent des enzymes dans notre corps de bien-être. C'est pas juste pour procréer. C'est comme si Dieu, imaginez que Dieu, lorsqu'il crée à manger, justement, il recrée à manger parce qu'il faut qu'on mange, mais on n'a pas de goût. Et on est comme des vaches, on broute l'herbe et toutes les herbes sont pareilles. J'étais repris un jour par un agriculteur qui aime les vaches, qui m'a dit non, elles savent faire la différence en la qualité des herbes. Comme ça, j'ai fait désolé, je ne savais pas que les herbes avaient des goûts différents. Je me dis, mais imaginez, il fallait qu'on mange, mais on mange, tu manges parce qu'il faut que tu vives, mais on n'avait jamais de goût. Mais non, Dieu a fait en sorte que lorsqu'on mange, on prend du plaisir, on a des papilles gustatives. Et on apprécie. Alléluia, comme dit Rodrigue. Et c'est pareil au niveau du sexe. C'est la même chose. C'est pas juste pour procréer. Il y a des papilles gustatives, sexuelles. Merci Greg. Et même là, quand on partage, on sent l'Église est tellement pas habituée. Certains d'entre vous me regardent, me font. C'est vrai ce qu'il dit, tu penses ? Ben oui ! Parce que Dieu a créé le sexe avec un design. Un but, si tu préfères. Pas juste pour procréer. Comme il a créé le palais pour déguster. C'est pareil. Et c'est un mythe de croire que le but du sexe n'est pas le plaisir, mais que la procréation, c'est faux. Un autre mythe, c'est que le besoin qu'on a d'être dépendant de Dieu, d'être satisfait par lui, alors là, peut être remplacé par le besoin de sexe. Là aussi, c'est une erreur. Il y a un besoin de sexe, mais qui doit être consumé dans le cadre du mariage et de l'alliance. Il y a un besoin de sexe qui doit être en réalité l'épanouissement d'une relation forte avec Dieu et avec son époux, son épouse. Le sexe est un aboutissement d'une relation épanouie. Pourquoi je dis ça ? Parce que lorsque les gens tombent dans la pornographie parfois, dans le sexe avant le mariage, souvent ils utilisent le sexe pour combler un besoin qui en réalité demeure dans leur être intérieur. Trois exemples simples, et ça on va peut-être plus le voir demain matin, en priant pour ça, je vais peut-être développer. Il y a des besoins intérieurs comme l'intimité. L'intimité a un but, c'est d'être connu et de connaître. L'intimité, le but de l'intimité, c'est une relation transparente. Un autre besoin, c'est un besoin de connexion qu'on a besoin. Et ces trois besoins-là se trouvent dans la relation avec Dieu. Un besoin de connexion, c'est-à-dire partager la même histoire, partager les mêmes choses. Tu es connecté par rapport à ce que tu fais. Un autre besoin qu'on a au niveau de l'être intérieur, c'est être réconforté, être encouragé, le besoin d'être rassuré. Ces besoins-là, c'est des besoins de notre être intérieur. Quand on ne les trouve pas en Dieu, on peut penser que le sexe peut les combler. Et c'est une erreur. Le sexe est une pratique qui peut nous faire croire qu'on a répondu à ces besoins-là, mais c'est faux. Et lorsque le sexe est utilisé en dehors du cadre du mariage qui doit construire ces trois principes, alors ça brise des vies. Mais comme la dernière fois, vous avez vu que le sexe, c'est dans le cadre de l'alliance, dans le cadre du mariage, donc j'en parle ici de ces trois principes, parce que malheureusement, souvent, je me suis rendu compte que le péché sexuel est réellement en lien avec ces trois points de l'âme qui ne sont pas comblés. Une femme qui n'est pas réconfortée par son mari, qui n'a pas l'écoute de son mari, peut tomber dans un rapport sexuel avec quelqu'un qui l'écoute. Un mari qui n'arrive pas à construire une connexion avec sa femme, parce qu'elle ne peut pas partager les choses avec lui, il y a des passions différentes, peut tomber avec une autre femme qui partage sa passion et être séduit et avoir des relations sexuelles avec elle. C'est pour ça que, oui, le sexe, ça permet d'avoir du plaisir aussi, mais ça doit être un aboutissement, c'est la conclusion, la consécration d'une base, d'un fondement relationnel, d'une construction, d'une relation d'alliance forte. Parce que si ce n'est pas le cas, alors des vies vont être brisées. Un autre mythe, être curieux au sujet du sexe, c'est mauvais. Et on se dit, mais allons être silencieux sur le sujet. Parce qu'il ne faut pas être curieux. Et pourtant, il est écrit dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et comme l'Église ne va pas creuser la connaissance sur ce sujet, en s'appuyant sur la parole de Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure en introduction, elle est silencieuse et elle laisse le monde parler. Et elle dit non, on n'en parle pas. Alors que l'ignorance fait en sorte que le peuple périt. Donc il est important d'en parler. Il est important de se dire, wow, attends, si c'est Dieu qui a créé le sexe, il a créé dans quel but ? Si Dieu a créé le sexe et qu'il n'est pas embarrassé de parler du sexe avec le livre des cantiques, pourquoi nous on en a honte ? La honte ne vient pas de Dieu. La honte est la conséquence du péché. Et vous l'avez vu la semaine dernière. Avec Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, la première chose, il dit « j'ai eu honte ». Et donc, ce n'est pas mauvais d'être curieux, de rechercher en tant que couple chrétien dans l'alliance du mariage, d'avoir des relations sexuelles épanouies. Et que le mari et la femme se mettent d'accord. Parce que franchement, quand un couple dit « Mais moi, j'ai des relations une fois tous les 6 mois », il y a un souci de connexion. Comme je le disais à l'école, ça va rouiller. Il y a un souci de connexion. Il y a un problème. Il y a un souci de perception de ce qu'est la relation sexuelle. Et donc, être curieux, ça ne signifie pas « va voir les sites porno, va voir... » C'est pas de ça dont je parle. C'est bien sûr être curieux de ce que dit la vérité à propos de ce sujet. Pour justement te protéger du mensonge et éviter toute confusion. Un autre mythe, je ne devrais rien savoir à propos du sexe avant que je sois marié. Pour les jeunes et les célibataires. Les jeunes qui sont là, si on n'en parle pas, ils vont apprendre au collège, ils vont apprendre au primaire, ils vont apprendre à la télé, ils vont apprendre avec leurs copains et leurs copines. Mon petit garçon, Nathan, qui est presque même grand, qui est quasiment, qui fait presque ma taille, a 11 ans et demi. Il est grand. Et j'ai commencé à lui parler de comment on fait les enfants pour que je sois le premier à lui parler, que ce ne soit pas ses copains ou l'école qui lui apprend. Pour qu'il comprenne. Parce qu'il arrive dans cet âge de puberté, comme on dit, il est en sixième. Si ce n'est pas papa qui en parle, parce que papa et maman sont silencieux dessus, alors c'est les autres qui vont parler, mais je ne sais pas de quelle manière ils vont lui parler. Et que ce soit en tant que ministère dans l'église ou en tant que parent, il y a cette responsabilité à exercer pour protéger. Et donc de dire non, je ne dois rien savoir à propos du sexe avant que je sois marié, ce n'est pas bon. Je dois surtout savoir la vérité au sujet du sexe avant que je sois marié. Parce que plus j'équipe mon garçon avec la vérité sur ce sujet, plus je le protège. Et plus il va voir que son papa n'a pas peur ni honte de lui partager ça. Et quand il va commencer à se découvrir, ce qui rentre dans l'adolescence, il ne sera pas gêné. Mais si je suis silencieux, il va dire ben, « ça fait partie de la vie, mais ça, ce n'est pas important. » Mais les copains vont lui parler pour montrer que c'est important. Et l'Église fait tout le temps cette erreur. C'est pas bon. C'est un mythe. C'est un mensonge. C'est une séduction. Et le thème de ce soir, c'est démasquer les mythes sur la sexualité. Pour qu'en tant qu'Église, on apprenne à dire la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Libre de quoi? De la confusion, du mensonge. Parce que si la vérité nous libère, le mensonge nous lie et nous emprisonne. C'est pour ça que c'est pas bon de ne pas... dis rien à ton fils avant qu'il soit marié. C'est trop tard quand il a 20 ans. Il aura déjà appris plein de choses. Et au lieu de l'apprendre avec ses parents, il va l'apprendre avec le monde. Au mieux de baser ça sur la vérité, ben non, nous on zippe notre bouche. Il y a un souci. D'où vient le fait qu'on a honte de parler de ça? Vous croyez que ça vient de Dieu? Un autre mythe. Je ne dois pas avoir d'appétit sexuel avant ma nuit de noces. Encore une fois, dans quel film? Je ne parle pas d'avoir des relations sexuelles. Je parle d'avoir de l'appétit sexuel. Toute personne normalement constituée, homme et femme, jeune, et moins jeunes ont de l'appétit sexuel. C'est normal. Si tu n'en as pas, c'est anormal. On va prier pour toi. Si tu n'en as pas, c'est anormal. C'est normal d'avoir de l'appétit sexuel. C'est tout à fait normal. Ce qui est anormal, c'est de ne pas savoir la contrôler. Donc, comment faire pour emmener les frères et sœurs à contrôler leur appétit sexuel? Bon, en leur prêchant la parole de Dieu, le fruit de l'esprit, la maîtrise de soi, en disant, mais avec l'aide de Dieu, sa grâce, tu peux. C'est pas en le condamnant, ah, tu as des désirs sexuels, va te repentir, va jeûner et prier. Parce qu'on ne doit pas avoir de désirs sexuels. Dans quel film? Dieu nous a créés avec. Mais quand on refuse et on blâme les gens, on les met sous une condamnation. On les culpabilise. Et même les jeunes culpabilisent. Je ne dois pas avoir d'appétit sexuel avant le mariage. Comment je vais faire? Parce qu'à l'église, tout le temps, on dit c'est dans le mariage, je veux avoir des relations. Oui, c'est dans le mariage, je veux avoir des relations. Mais malheureusement, ou plutôt heureusement, avant le mariage, il y aura un appétit, il y a un désir qui est là. Et c'est normal. Mais ce qu'il faut, c'est apprendre aux jeunes et aux moins jeunes, dire c'est pas le désir le problème, tu es normal. Arrête de te mettre la pression. Si tu as du désir, tu es normal. Ce qu'on veut t'aider, c'est attention, laisse pas ton désir te dominer. Sache le maîtriser. Mais il faut que l'Église dise, il faut que les parents disent à leurs enfants. Et les parents, si en tant que pasteur, ton enfant a un appétit sexuel, et tu commences à dire, c'est pas bon, hein. C'est pas bon d'avoir l'appétit sexuel. Mais ça va pas, non? Dieu nous a créés avec ça. Donc c'est normal. Le problème n'est pas l'appétit, c'est le manque de maîtrise de soi. C'est de l'accompagner à dire, écoute, il faut canaliser ton appétit. Mais que ce soit avant le mariage ou pendant le mariage. Parce qu'en général, un gars a plus faim qu'une femme, en général. C'est un mythe. En général. Un autre mythe, c'est le mariage résout tous les problèmes d'appétit sexuel. Parce que la parole de Dieu dit oui, il ne faut pas brûler et il faut se marier. Mais malheureusement, quand on continue à lire le même chapitre de 1 Corinthiens 7, 28, l'apôtre Paul dit « Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier, mais les jeunes gens mariés connaîtront bien des souffrances et je veux les épargner. » Il est génial, Paul. Trop cool. Paul dit « Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances et je veux les épargner. » Donc, de croire que « Ah, oh, mais parce qu'on brûle et donc on va arriver dans le mariage, tout va être réglé. » Deux canettes, comme on dit chez nous. C'est... Non, attends, y a... Si tu n'arrives pas à régler ton appétit avant, tu crois que c'est pendant? Ah là là là, quelle mimite. Un mimite chez nous, c'est un chat. Et croire que quand je vais me marier, alors là, maintenant, j'aurai plus ce problème d'appétit sexuel à régler. Parce que là, je pourrais faire l'amour avec ma femme. Et attends, Paul dit, d'accord, mais tu vas connaître bien des souffrances quand même. Et dans sa bonté et sa bienveillance, Paul dit, et je voudrais vous épargner. Un autre mythe, c'est arriver au mariage sans aucune expérience sexuelle, surtout chez les jeunes, et ben c'est naze, c'est nul. Et les jeunes s'encouragent parfois en disant « Mais attends, si tu n'as aucune expérience sexuelle avant ton mariage, comment tu vas prendre soin de ton mari ?» Et ça, t'es un jeune, se culpabilise avec ça. Il dit « Mais je ne saurais pas comment faire. » C'est faux. Il est prouvé au contraire que ceux et celles qui ont beaucoup de relations sexuelles avant le mariage ont beaucoup de séquelles. Beaucoup de séquelles dans leurs relations. Ils ont été abîmés. Ce que vous avez vu la dernière fois, il y a une connexion. La relation sexuelle, ce n'est pas que naturel, c'est spirituel. En parenthèse, peut-être que vous savez, peut-être que vous ne savez pas. Combien de cultes démoniaques, de sorcellerie passent par des orgies, c'est-à-dire des relations sexuelles, pour se communiquer des démons? Pour se communiquer des démons. Parce qu'on croit que c'est que naturel. Non, c'est spirituel. Une relation sexuelle, avec hors mariage, avec plein de partenaires, mais ouvre des portes de ouf. Il faut que les jeunes entendent ça. Ça ouvre des portes de ouf. Oui, gloire à Dieu, il peut tout nettoyer, repentir, après, il peut... Mais c'est bien mieux de prévenir, guérir, comme on dit. Que tu ne connais pas, oui, c'est pas grave. Mais il est prouvé que quelqu'un qui a beaucoup de relations sexuelles avant le mariage a beaucoup plus de séquelles dans les relations. Dans sa relation avec le mariage, le mari, il est là. Si sa femme a connu d'autres gars, il va passer voir l'autre gars, il va dire non, non, c'est ton ex, on passe de l'autre côté. Par exemple, la femme aussi va voir le mari, c'est qui elle? C'est ton ex? Ah non, non, non. Et ça crée des conflits inutiles. Ils oublient qu'ils sont pardonnés, lavés par le sang de l'agneau. Donc, arriver au mariage sans aucune expérience sexuelle et croire que c'est ringard, c'est faux. Et il faut que les jeunes entendent ça. Un autre point et un autre mythe. La pureté, c'est juste pour les célibataires. Garde-toi pur. Pour ton mari, pour ton épouse. Mais dans le mariage aussi, il faut que tu te gardes pur. On croit que le sexe salit. Mais si tu fais le sexe, tu as des rapports sexuels dans le mariage, tu n'es pas souillé. C'est Dieu qui l'a créé. Et l'apôtre Paul vient de le dire tout à l'heure, mais la femme qui se marie, elle ne pêche pas. Et là, quand il dit elle se marie, il ne parle pas de la célébration de mariage. 4 lunes de miel et un enterrement, je sais pas quoi, là. C'est pas de la préparation du mariage, comme on voit à la télé, sur comment on va noter ta cérémonie, comment est la robe, comment est le buffet. Mais c'est tellement n'importe quoi. Mais le pire, c'est que le monde regarde ça et tout le monde est là. Ah ben, tu veux avoir un mariage beau, il faut une belle célébration. Dans quel film ? Tu peux avoir une belle fête de mariage, la solidité de ton mariage ne va pas dépendre de la fête. C'est pas de ça. Et combien de jeunes et moins jeunes passent du temps à préparer la belle fête de mariage sans jamais préparer les cœurs sur la valeur de la parole de Dieu. Et ils ont oublié 1 Corinthiens 7, 28. Quand Paul dit mais, ils auront beaucoup de souffrance. Alors, au lieu de passer le temps juste sur la belle célébration, et passe du temps à préparer ton cœur pour avoir le moins possible de souffrance. C'est important. Et dans le mariage, le mari doit apprendre à rester pur aussi. Faire attention aux sites porno, sur les médias, sur Internet, les trucs, les pop-up qu'il y a sur Facebook, les emails. Et la femme, pareil. Il faut aussi pas uniquement se garder pur juste quand on est célibataire. Un autre mythe, c'est qu'une fois que la pureté est perdue, elle ne peut plus être restaurée. C'est faux. C'est faux. Il y a un exemple magnifique dans la parole de Dieu de Rahab, la prostituée. Je veux dire, Rahab, la prostituée, il faut comprendre qu'elle est prostituée. C'est-à-dire qu'elle a des relations sexuelles en dehors du cadre de l'alliance. Souvent parce que c'est son travail. Il faut qu'elle mange. Donc, tous les gars de Jéricho, la plupart la connaissent bien. Mais Rahab est dans Hébreux 11. Le chapitre sur la foi. Elle est dans Hébreux 11 et dans la lignée de Jésus-Christ. Elle a été rachetée, cette femme-là, par le moyen de la foi. Donc, gloire à Dieu, il y a de l'espoir. Et donc, si elle n'était pas pure, elle était souillée avant, mais elle peut être purifiée par le sang de l'agneau, par le moyen de la foi. Et ce n'est pas donc une fois que tu as perdu la pureté, tu peux être restauré en Christ. Un autre mythe, si tu as du mal et parfois certaines personnes qui ont une addiction, vous comprenez bien, ça arrive souvent la plupart du temps qu'une personne qui manque de confort émotionnel, de réconfort, d'intimité avec Dieu aura tendance fortement. Il peut avoir tendance à devenir addict à la pornographie. Et ceux qui sont addicts à la pornographie, pour certains, ils pensent que c'est extrêmement dur de sortir de là. Et franchement, je ne juge personne. Mais il y en a, vous devez faire attention. Et quand tu es addict, le mythe, c'est tu as du mal à rester pur, tu tombes à chaque fois, c'est de croire que tu ne pourras pas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. C'est de bonnes convictions qui emmènent de bonnes actions. J'ai déjà vu ça avec vous. J'ai un témoignage d'un homme de Dieu extraordinaire, brésilien. Il s'appelle Abbé Hubert. Vraiment, et c'est un pasteur qui... de toute une famille de ministères qui aujourd'hui a une église de 50 000 membres dans la ville de Santarém et qui fait 80 000 habitants, des milliers d'églises en Amazon. Le gars, c'est un homme de Dieu. Avec un cœur extraordinaire. Un amour qui déborde énorme. Mais un jour, il a partagé son témoignage à une conférence où j'étais. Et ils étaient envoyés en Amazon par son papa à l'époque. Et c'était son grand frère qui était le leader de la famille qui a pris la relève de son papa. Son grand frère, pour lui, était une star. C'était son deuxième papa. Ils s'entendaient super bien. Et lui, il avait du mal en tant que fils de pasteur avec la pornographie. Et il avait du mal parce que non seulement il était appelé en plus au ministère comme son frère à servir dans l'église de son papa qu'ils avaient implanté. Mais il avait du mal et tout le temps il tombait et il pensait qu'il ne pourrait jamais s'en sortir. Jusqu'au jour où Dieu lui a donné un principe important où il a vu dans un rêve que son grand frère était sa protection. Et qu'il devait être transparent avec son grand frère et commencer à partager son cœur avec son grand frère. Et qu'il a commencé à le faire, et ben, il est parti vraiment dans une discipline spirituelle d'au moins 6 mois. Et à chaque fois qu'il était tenté, il partageait ça à son grand frère. Même pas le péché, la tentation. Et il a été totalement délivré de cette addiction. Et là, eu aujourd'hui une femme et des enfants extraordinaires. Et il partage son témoignage pour encourager ceux qui galèrent avec cette addiction. Et un jour, pendant que son grand frère prenait l'avion en Amazon pour aller de village en village avec toutes les églises de ville en ville, l'avion fait un accident et son grand frère meurt. Là, il balise. Parce que son grand frère, c'était pour lui... The homme de Dieu. C'était ouf. Il se dit comment il va faire. Et bien sûr, dans la douleur, il pleure, mais il dit, mais comment je vais faire, à qui j'ai parlé? Et dans la douleur, son grand frère est parti, et la tendance commence à revenir. Et là, il commence à baliser. Et Dieu lui montre un rêve. Il voit qu'il est sous un parapluie, et le parapluie s'en va au ciel. Mais qu'il y a un autre parapluie qui descend, et qu'il est juste à côté. Et Dieu lui dit, va dessous. Et le parapluie, c'était son beau-frère. Et au départ, il dit, il n'avait pas trop envie de parler à son beau-frère. Et en priant, c'est son beau-frère qui a pris la relève et le ministère de son frère. Parce qu'avec sa sœur, ils étaient tous dans le ministère. Mais il aimait son beau-frère, c'est juste qu'il n'avait pas la même affinité qu'avec son frère. Et quand la tendance commençait à revenir, il a choisi, avec le rêve que Dieu lui avait donné, de se mettre sous le parapluie qui était son beau-frère. Et d'être transparent. Et d'être redevable. De non pas partager uniquement ses péchés, mais de partager ses tentations sur le sujet. Et il est devenu fort en Christ et n'est pas retombé. Et même son beau-frère a pris le lead, il a fait une œuvre extraordinaire en Amazon. Il s'appelle Pasteur Habé Hubert. Vous pouvez aller voir sur Internet. Il y a un projet qui s'appelle Project Amazon. Et c'est bon de comprendre ça, parce que c'est un mythe de croire qu'on ne peut pas s'en sortir de ce problème-là. Un autre mythe, si tu m'aimes vraiment, alors tu dois faire ce que je te demande. Les jeunes, par exemple, si tu m'aimes, jeune fille qui tombe avec un gars dans le monde et qui dit, mais si tu m'aimes vraiment, alors tu dois coucher avec moi. Dans quel film ? Il ne t'aime pas vraiment, là. Parce que l'amour ne force pas. L'amour rend libre. Quand j'ai rencontré Sandrine, mon épouse, elle n'était pas convertie malheureusement, mais je l'ai rencontrée en juillet. Et quand je l'ai rencontrée, elle venait de gagner son DUT. Et elle, ses parents l'avaient inscrit à une licence en métropole. Elle payait l'appartement, la caution, etc. Et je la rencontre en juillet, elle doit partir en septembre. Et elle me dit, on sait, mais comprenez bien, je suis dans le monde. Donc au départ, elle me dit, c'est pas grave, si tu pars en septembre. Je me suis dit, tant pis, mais bon. Dans ma tête, à profiter de moi, quoi. Et on passe du temps ensemble et on s'aime. Et le moment arrive où elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que tu veux que je reste avec toi ou que je parte faire mes études? Je lui dis, je ne peux pas décider à ta place. Tu dois être libre de ton choix. Et elle n'était pas contente avec ma réponse. Elle attendait que j'allais lui dire, je t'aime à la folie. Reste avec moi, toi et moi, nous deux, together. Ensemble, on va être bien. On est passionnés, ça va être le top. On va vivre une romance incroyable. Quitte tes études. Tes parents ont payé déjà la caution, c'est pas grave, ils vont perdre. Ils ont payé le billet, c'est pas grave, ils vont perdre. Ils ont payé la fac, c'est pas grave, ils vont perdre. J'avais déjà tout payé. J'ai pas dit ça. Je lui ai dit, tu sais, si je te dis de rester et que ça marche pas entre nous et que dans 2 ou 3 mois, tu mets la faute sur moi en disant j'ai raté ma vie et, le coche que je devais prendre pour mes études parce que tu m'as fait les yeux doux. Alors tu me blâmeras parce que tu n'es pas parti. Je ne peux pas décider à ta place. Tu es libre de partir ou pas. Et dans mon cœur, je suis en train de lui dire, mais c'est évident, réfléchis quoi. Comme si j'ai envie que tu parles, non, mais réfléchis. Le désir et la tentation de séduire. Oh oui, reste, nous deux, on va aller ensemble à la conquête. La tentation de lui dire était là, mais je ne pouvais pas, parce que l'amour rend libre. Les jeunes, l'amour rend libre. Il ne force pas. Il ne force pas. Il respecte et il honore. Et gloire à Dieu, Sandrine était illuminée avec la sagesse de Dieu. Et elle est restée. Et là, je fais... Si je pouvais faire un salto, j'aurais fait. Je ne sais pas faire. J'ai dit, waouh, j'étais super heureux. Mais il fallait qu'elle aille dire à ses parents, voilà, Steve, que j'ai rencontré maintenant depuis 2 mois, je préfère rester avec lui. Et donc maintenant, pour les sous, pour l'appartement, les sous, pour l'inscription à l'école, les sous, pour le billet d'avion, ben, voilà quoi. Désolé, c'est la faute à Steve. Mais moi, j'ai laissé le libre choix parce que je ne peux pas non plus laisser ses parents qui avaient investi. Donc il fallait qu'elle confronte elle-même ses parents. Et elle a choisi de rester, d'aller les voir et de les confronter en disant « je reste ». Ah là, j'étais content. Ça, c'est, je me dis « Seigneur, Alléluia, Amen, Dieu est vivant ». Avant de croire tout ça encore. Mais donc c'est important de comprendre, c'est un mythe de dire si tu m'aimes vraiment, prouve-le. Si tu m'aimes vraiment, il faut que tu me montres, il faut que tu me prouves. C'est faux. Si la personne t'aime, elle te respecte et elle t'attend. Et tu la laisses libre. Parce que l'amour rend libre. Un autre mythe, ce n'est pas possible de marcher dans la pureté toute sa vie. C'est possible. Il y a des exemples bibliques qui nous montrent. L'exemple de Joseph, par exemple. Encore une fois, c'est de bonnes convictions qui produisent de bonnes actions. Joseph, quand il voyait la femme de Potiphar qui voulait mettre le grappin dessus, il était comme Forrest Gump. C'était court, Joseph. Court, Joseph. Et il court pour rester pur. Je me souviens une fois, une pastorale chez nous, c'est pas j'ai partagé ça ici, une pastorale, un rendez-vous pastoral. Une sœur de l'église qui vient, mais elle est vraiment très très belle. Mais quand je vous dis très très belle, c'est du high level pour les gars. Et là, je regarde cette femme arriver et je vois les pasteurs qui vont l'écouter. Et là, je dis à un jeune pasteur, tu peux garder ton cœur, là? Il me fait, ah non, non, je ne fais pas le rendez-vous, moi. Elle est trop jolie. Mais j'ai aimé son honnêteté. Il m'a dit, je ne fais pas le rendez-vous, moi, elle est trop jolie. Je dis, non, non, je dis à l'autre camarade pasteur, va chercher une sœur pour t'aider, moi, je ne fais pas le rendez-vous avec toi, moi. C'est génial. Cours, Forest. Cours, Joseph. Il n'est pas là en train de faire le fort. Il fait, ah non, non, je sais pas, rendez-vous. Hein. Ah non, je me dis, laisse tomber, je suis pas fou. Hein. Mais j'ai aimé son cœur et la sincérité. Est-ce qu'il voulait se protéger? Cours, Joseph. Reste pas là. Et c'est important de comprendre ça. Si tu ne dois pas boire le vin, reste pas à côté de la bouteille. C'est très... C'est la sagesse de Dieu. Le gars me fait, ah, elle est trop jolie, hein, je reste pas, je ne fais pas rendez-vous, moi. Je n'ai pas capté le Saint-Esprit, là. Mais combien de pasteurs seraient sauvés s'ils feraient ça? Mais il faut être juste vrai. Et courir. Et faire à la Joseph. Même lui était faussement accusé, mais il n'est pas resté. Donc, c'est possible de marcher dans la pureté si on apprend à être transparent, si on apprend à être redevable. Et imiter des hommes comme Joseph, comme Daniel. Si eux, ils ont pu le faire, alors qu'ils n'avaient pas le sang de l'agneau, alors qu'ils n'avaient pas la croix, alors qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit comme nous, on a en nous, alors qu'ils n'avaient pas le nom de Jésus. Je pense qu'on a plus d'atouts qu'eux pour pouvoir tenir. Et s'ils ont réussi, le même Dieu qui leur a accordé la grâce de réussir peut nous accorder la grâce de réussir aussi à notre tour. Si on reste dans l'humilité, si on reste dans la sincérité, si on reste dans la vérité. Et j'ai bien aimé ce jeune frère. Et moi, je l'embête, je fais alors, là, le rendez-vous, là, comment tu vas faire? Tu vas réussir à garder ton cœur, là? Ah, je n'ai pas le rendez-vous, moi. C'est génial. C'est juste bon. Et combien l'Église ne ferait pas ça? C'est un mythe donc de croire qu'on ne peut pas. On peut, si on a une bonne attitude, si on a de bonnes convictions. Un autre mythe. Dès que je trouve une femme belle, Dieu n'est pas content. Ça, c'est une erreur. Un gars est visuel. Un gars est visuel. Il y en a qui peuvent être sous cette culpabilité, ou même les jeunes qui grandissent dans l'église parfois. Et elle est belle? Ouais. Et on se sent coupable de dire qu'elle est belle. Et quand le pasteur dit « Mais elle est canon !» Les gens peuvent commencer à juger « ce pasteur-là est bizarre. » Je dis « toi t'es menteur. Toi t'es menteur ou hypocrite, fais quelque chose avec toi. » Ou aveugle, alors là c'est plus grave. Non, tu peux dire... Une femme peut dire « Cet homme est beau, ou il a du charme, ou il me plaît, mais ne pas être tentée. » Le problème, ce n'est pas de dire qu'elle est canon ou elle est belle, c'est de la convoiter. Le problème, c'est de la convoiter. C'est ça le véritable problème. Mais des fois, dans l'église, on mélange tellement tout que non. Mais alors, il faut se voiler, alors. C'est à la mode. Je veux dire, et les femmes aiment se faire belles. Oui ou non, les femmes? Les femmes aiment se faire belles. Je vois ma petite fille, je me dis, c'est pas possible, Elle aura 6 ans, là, quand je rentre la semaine prochaine. Et là, je la vois la dernière fois, elle met sa couronne. Là, elle met un petit peu le rouge, là. Puis elle met sa petite ceinture, puis elle va dans le miroir. Je dis, elle a 6 ans, je dis, mais où elle apprend ça, elle? Et là, elle fait sa star. Et puis elle vient, elle me dit, alors papa, comment je suis? Je fais, waouh, ma chérie, tu es super belle, t'es canon. Je dis pas, la beauté, c'est la beauté intérieure. Va ranger cette ceinture et ta couronne, petite fille de pasteur. Mais ça, c'est... J'essaie de partager des choses pratiques avec vous. Je sais que vous rigolez, mais vous savez que c'est vrai. Le but, c'est de partager des choses vraies, des choses qui touchent notre quotidien. Ma petite fille vient, je ne sais pas où, la beauté intérieure, parce que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas mettre de phare. J'ai partagé avec vous l'histoire d'Éléazar, le serviteur d'Abraham. Quand il va chercher une femme pour Isaac, là, Abraham est cache, il faut qu'elle soit belle. Abraham ne dit pas, écoute, prends première qui passe. Écoute, puis voilà, puis même si elle est un peu dépareillée, c'est pas grave, écoute, c'est mon fils, il a besoin, c'est la beauté intérieure qui compte. C'est pas grave, le visuel, tant pis, il mettra des lunettes ou... Mais il faut être vrai. Il faut être vrai, c'est faux. Les femmes aiment se faire belles et les hommes aiment regarder les femmes belles. C'est tout. Les femmes se font belles pour être regardées et les hommes, ils regardent parce qu'ils savent que les femmes aiment qu'elles sont regardées, lorsqu'elles sont regardées. Alors... Non, je le fais pour moi-même, tu vois. Moi, quand je me maquille, c'est vraiment parce que j'aime bien me voir. Ouais. D'accord, c'est un gros mimite, oui. C'est un gros mimite, là. C'est comme ça. Puis même lorsque Sandrine se fait belle, si je lui dis rien, j'ai un problème. Elle dit rien, mais elle attend que je dise. C'est évident. Elle attend que je dégaine quelque chose. Et j'ai intérêt de remarquer quand il y a un nouveau vêtement. Quand il y a une nouvelle coiffure. Ah. Est-ce que tu as remarqué quelque chose là? Ah là là, là c'est ça là. Là tu fais une analyse. Et là tu pries dans ta tête. Ah, tu dis, Seigneur, aide-moi à découvrir c'est quoi qui a changé sur elle. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais il faut arrêter avec ces mythes-là. On a construit, on n'est pas vrai. Le problème, c'est la convoitise, c'est tout. Une femme, elle va être touchée par ce qu'elle entend. Un gars, il est touché par ce qu'il voit. Donc il a intérêt d'avoir la maîtrise de soi. Mais s'il ne convoite pas, alors si cette femme est belle ou elle est canon, c'est comme si cette voiture est belle et elle est canon. C'est comme s'il y a un beau paysage. Et dis pas, Dieu met un voile sur le paysage. Donc c'est un mythe. Un autre mythe, écoutez bien celui-là. Toute réaction sexuelle est le résultat d'une convoitise. Toute réaction sexuelle est le résultat d'une convoitise. Je m'explique. Les jeunes, par exemple, et on a tous été jeunes par ici, qui a déjà été adolescent ici ? Je le suis encore. Quand on commence à être jeune, on commence à découvrir son corps, on a des réactions. Et il y a des réactions qui n'est pas en lien avec juste la convoitise, c'est chimique. C'est chimique. Mais si on ne dit pas ça aux jeunes, quand ils vont dormir, les gars dorment, ils se réveillent le matin. Et ils disent, maman, je prends une douche. Ça peut être juste une réaction chimique. Ou une attaque avec un rêve, peut-être. Mais parfois même pas. C'est juste chimique. Mais si on ne leur parle pas, et que l'Église est silencieuse sur le sexe, qu'est-ce qui se passe? Ils culpabilisent. Et on les met sous un joug. Mais on a de l'appétit sexuel. Il y aura une chimie en nous qui va se produire. C'est comme ça. Quand, par exemple, un gars serre une sœur, fais attention à comment tu serres la sœur dans tes bras. Parce que tu peux avoir une réaction physique. Et parfois, c'est même pas lié à la convoitise. C'est juste une réaction physique, chimique. Mais on peut se sentir condamné, coupable avec ça. Ils disent, oh. Tu fais comme ça, mais tu dis, oh. Bonjour ma soeur. C'est chimique. En grande partie. Oui, ça peut être de la convoitise aussi. Mais je vous parle de faire croire que c'est que de la convoitise, c'est faux. C'est faux. C'est prouvé que même la femme elle-même, c'est pendant une période dans le mois, elle est beaucoup plus disposée à avoir des relations sexuelles que pendant d'autres périodes dans le mois, parce qu'il y a une chimie dans son corps qui se met en place. Et là, il faut que le mari a du discernement. Là, il faut que le mari a du discernement qui... Ouh, il sent le parfum dans l'atmosphère. Et qui capte la fréquence. Il y a une chimie. Et c'est important parce que sinon, les gens peuvent vraiment être sous la culpabilité. Et ce n'est pas le cœur de Dieu. Un autre point. Lorsque... Dans les relations sexuelles, un autre mythe, c'est quand les gens pensent que c'est parce que émotionnellement, on est attiré. Ou on sent que c'est juste, c'est le feeling. On ne peut pas juste aimer avec le feeling. On ne peut pas. C'est une erreur de croire, parce que émotionnellement, il y a une attirance. Que c'est de celui-là que j'aime ou que c'est lui qui est fait pour elle et moi. Non. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Pas juste de toutes tes émotions. Les émotions sont une partie. Les sentiments. Les sentiments. Le feeling peut être réel, ne laisse pas te conduire. Un jour, je dis ça pourquoi ? Parce que les gens peuvent ressentir des choses. Imagine qu'un jeune homme ressent une chose pour un autre jeune homme et qu'il commence à croire qu'il est peut-être homosexuel. Parce qu'il commence à croire un feeling. Ça commence comme ça. Et s'il n'y a pas l'Église qui est là pour enlever la culpabilité, alors que les jeunes, avec cette chimie en eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont commencer à se chercher, se trouver, faire des tests. Je connais un ami homosexuel qui est aujourd'hui en Christ, donc délivré. C'est un peu produit comme ça. Il aurait dû avoir peut-être des mentors qui est là pour dire « Attends, c'est pas parce que tu as ce feeling ou que tu as commencé étant plus jeune avec tes copains à même expérimenter des choses parce que vous ne connaissiez pas et que vous vous êtes mis tout nu ou je sais pas, que ça fait de toi quelqu'un qui aime un gars ou de toi une fille qui aime une fille. C'est faux. » Et tu déculpabilises les jeunes. Et tu dis la curiosité et la chimie t'a peut-être poussé à le faire. Mais tu n'es pas comme ça. Les sentiments. Mais si l'Église ne dit pas ça, et je sais que ça parle à certains d'entre vous, et elle est silencieuse, et les gens vivent avec le joug et la culpabilité, des erreurs de jeunesse, ce n'est pas le cœur de Dieu. C'est aussi un mythe. Un autre mythe en lien avec celui-là, c'est quand les gens disent « Je suis né homosexuel ». La Bible dit dans 1 Genèse, Genèse 1, 27, qu'il créa l'homme à l'image de Dieu, il créa homme et femme. Et au passage, Dieu, comme vous le partagez Jérémie, est homme et femme. Dieu a les deux en lui. Et la Bible dit qu'il a créé l'homme, homme et femme. Il a tiré le côté femme de l'homme. Alors arrête de chercher ton côté féminin. Il est sorti de toi. Il a créé homme et femme pour qu'il y ait une attirance, comme vous avez vu la semaine dernière, entre les deux. Chacun avec une fonction différente. Vous connaissez, je ne sais pas si j'ai raconté ce que Reinhard Bonnke a dit une fois sur l'homosexualité. J'ai jamais raconté. C'est une image ouf. Un jour, il y a des journalistes qui sont là, qui disent « Monsieur Bonnke, que pensez-vous de l'homosexualité ?» Et là, comme il aime dire, sa tête fonctionne par image. Et il dit « Madame, quand vous allez à la station avec votre voiture, est-ce que vous mettez l'essence par le pot d'échappement ?» Dit madame, est-ce que vous prenez le pistolet de la pompe à essence quand vous faites de l'essence et vous mettez par le pot d'échappement ? Et là, la dame est un peu surprise et il dit, l'homme est assez intelligent parce qu'il a conçu la voiture avec des parties qui ont chacun une fonction. Et l'homme ne va pas penser à prendre le pistolet de la station d'essence pour mettre dans le pot d'échappement. Il le met dans le trou approprié pour recevoir l'essence dans le réservoir. Comment se fait-il que l'homme est si tordu, lui, pour pas comprendre à quoi correspondent les parties de son corps que Dieu a créées pour que chacun ait un design et un but ? C'est bien, hein ? Franchement, j'aurais aimé avoir une caméra tout le week-end ici. Allez, dernier mythe. Ça, je dis, je n'ai pas compté. Amen. 18, merci Rodrigue. C'est un mariage solide doit toujours commencer par un coup de foudre. C'est que là, faut vraiment que je trouve vraiment celui qui... Je fais waouh. Une fois que j'ai trouvé celui qui c'est lui, ça vient de Dieu. Si j'ai pas le coup de foudre, c'est pas lui. Ça, c'est un gros mythe encore. C'est faux, le coup de foudre, c'est pas vrai. Tu peux avoir une attirance très forte, mais avoir un rapport sexuel ou construire une relation sexuelle ou construire même une alliance juste à partir de ce coup de foudre peut être risqué. Gloire à Dieu si aujourd'hui tu es marié et que ça commence avec un coup de foudre extraordinaire. Que Dieu te bénisse, c'est bien. Mais c'est pas uniquement ça. Se baser juste là-dessus est un faux critère. Et il y a un exemple incroyable dans la parole de Dieu là-dessus. Dans 2 Samuel 13, 1, la Bible dit « Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle, qui se nommait Tamar. Amon, un autre fils du roi, en tomba passionnément amoureux. » Ça parle ici que Amon était... C'était le coup de foudre. Il était omnibulé par sa demi-sœur. Le gars perdait ses nuits. Et le gars était malade, il ne mangeait plus. Tellement la passion... toucher ses entrailles. À un tel point qu'un de ses amis lui dit « Mais pourquoi tu es aussi pas bien en ce moment ?» Et il dit « Ah, je suis amoureux de Tamar, la sœur d'Absalom, mon frère. » Et son copain lui dit « Ben, écoute, tu vas voir ton papa, David, tu demandes à ta sœur de te préparer un petit repas, tu fais sortir tout le monde, et voilà. » Et tu la passes à la casserole. Paraphrasé. Et là, Amon fait « Ok, il se fait passer pour un malade, il va voir le roi David, Et le roi David dit, ben, il dit, tu es malade, qu'est-ce que tu veux? Ben, dis à ma soeur Tamar de faire un repas pour moi. Tamar vient faire un repas pour lui. Il demande à tout le monde de sortir et il la viole. Alors que, quand vous lisez l'histoire, Tamar a même dit, ne fais pas ça, ne me déshonore pas. Je suis une fille de roi. Tu es un prince. Elle dit, demande ma main au roi et je suis sûr qu'il te la donnera. Je dis, mais t'es la fille. Là, il n'y a pas de coup de foudre. La fille est prête à dire, à se sacrifier. Le gars était tellement sirop. Sirop, c'est un concentré de stupidité pour ceux qui ne connaissent pas. Qu'il a violé, même qu'elle a fait cette proposition, il l'a même pas écouté. Il a déshonoré. Et regardez ce que dit le verset 14 de 2 Samuel 13 qui raconte cette histoire. Quand il l'a violé, après l'avoir violé, il l'a forcé, la Bible dit, il ne voulut rien entendre, et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, écoutez bien le verset 15. Après cela, il conçut pour elle une aversion plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Et tout à coup, il lui ordonna, lève-toi et va-t'en. Ah! Les jeunes et les jeunes filles, attention aux coups de foudre trompeurs. Les mariés, attention aux coups de foudre dans le travail. Une passion qui peut arriver. Cours, Joseph. C'est un mythe. Donc je vous ai partagé plusieurs mythes ce soir sur le thème de la sexualité que Rodrigue me proposait. Et je prie pour que vous puissiez méditer. Et si un mythe vous correspond, je vous encourage à prier pour que Dieu vous libère. D'ailleurs, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux un moment? Je ne vais pas vous libérer tard. Je veux gêner personne. Vous avez le staff ici, pastoral, qui peut vous aider. Mais je veux juste, vous pouvez juste fermer les yeux. Il y a plusieurs choses qui ont été partagées. Et si vous savez qu'il y a une ou deux ou trois ou plusieurs de ces choses, ça vous concernait. Et à cause de ça, il y a une culpabilité, une condamnation. Il y a aujourd'hui quelque chose qui vous arrivez pas à être libre au niveau de la sexualité. Il y a une honte. Il y a une gêne par rapport à votre passé. Et comme vous m'avez entendu parler ce soir, vous vous dites, mais c'est pour moi là qui parle, c'est moi, ça m'est arrivé, ça. J'ai pas compris pourquoi je fonctionnais comme ça, mais je comprends aujourd'hui que il y a une solution en Jésus-Christ. Il est capable de tout restaurer. Peut-être que tu n'as pas voulu étant jeune, tu as été même abusé. Et ça crée des séquelles. Et aujourd'hui, tu te rends compte que Dieu est là pour te libérer. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, pour gêner personne, s'il vous plaît, par amour, pour celui ou celle qui est à côté de vous, demande juste de fermer les yeux, par amour pour eux. Si tu me dis, Steve, moi j'ai une chose dans ce que tu as partagé qui vraiment me concerne et même plusieurs, lève juste ta main là où tu es, s'il te plaît, sans être gêné. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Merci de vous tenir pour la vérité. Merci. Merci d'avoir le courage de dire, moi, j'ai besoin de connaître cette vérité qui me libère. Vous pouvez baisser les mains. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout, s'il vous plaît, maintenant? Juste faire une prière générale. Merci pour ceux et celles qui ont osé dire « Moi, ça me concerne. » Il y en a plein d'autres, vous n'avez pas osé. Dieu vous aime quand même. Mais chez vous, ce soir, dans sa présence, cherchez la repentance pour obtenir la délivrance. Parce que le but, ce n'est pas juste de prêcher ce thème, d'enseigner ce thème, pour dire « Ah, c'est super !» Non, mais c'est pour que tu expérimentes la liberté en Christ. Et que la sexualité est un thème que Dieu lui-même désire que son Église parle. Parents, si vous avez des enfants adolescents, n'ayez pas honte de leur parler. Protégez-les. Anticipez avec amour, sans jugement. Comprenez qu'il y a une chimie. C'est pas que de la convoitise. Comprenez qu'il y a un appétit et que c'est normal. Ne soyez surtout pas trop dans la condamnation. Alors, est-ce qu'on peut juste lever les mains, s'il vous plaît, en guise d'abandon? Saint-Esprit, je te remercie pour ta présence dans ce lieu. Père, je te prie maintenant même de toucher mes frères et mes sœurs ici présents ce soir. Je te prie pour une grande liberté dans le nom de Jésus-Christ. Je brise toute œuvre que l'ennemi a tissée dans les vies, dans les cœurs, dans les âmes. Et je te remercie d'avoir démasqué par la vérité les œuvres des ténèbres. Je te prie pour que la honte soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Je te prie pour que la condamnation soit ôtée de la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont levés, qui dans leur cœur se disent « Seigneur, pardon !» qui sont levés, qui ont dit « Seigneur, je pardonne !» Et je te prie pour une liberté, Saint-Esprit. Une grâce particulière pour les jeunes, confrontés à une société qui bombarde sur la sexualité avec mensonges. Seigneur, que ton peuple, l'Église, les parents, les familles puissent se tenir à leur côté et les encourager à tenir ferme pour qu'ils soient victorieux. Et puisse avoir une vie plus tard de couple fort en toi. Restaure les relations sexuelles de chaque couple ici, Seigneur. Pour ceux qui sont bien, que ce soit encore meilleur. Pour ceux qui ont du mal. Pour les femmes qui ont du mal à être dans la lumière. Parce qu'elles n'aiment pas leur corps. Parce qu'elles n'aiment peut-être pas ce qui s'est passé. Les a traumatisés. Liberté dans le nom de Jésus-Christ. Liberté dans le nom de Jésus-Christ. Touche. Saint-Esprit, touche. Fais ton œuvre. Et que les couples chrétiens, ton peuple, soient des couples en bonne santé, Seigneur. Restaure les cœurs, Saint-Esprit.